France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour sur France Culture, Jean-Luc Gadreau pour vous accompagner dans Soleil, rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Ultime entretien réalisé au Festival des Arts de la Parole à Lourmarin où Soleil était partenaire. Nous conclurons avec le traditionnel moment fort de ce festival, la Nuit de l'Éthique. Nous sommes ce matin, comme chaque matin de ce festival, à la terrasse de l'Hôtel du Moulin pour le temps d'un café. Et revenir maintenant sur la Nuit de l'Éthique, autour du thème du festival entre le dire et le faire. Nous en parlons aujourd'hui avec deux penseurs qui étaient au cœur de cette longue soirée de 18h30 à plus de minuit. Olivier Abel, philosophe, spécialiste d'éthique protestante, Raphaël Liaugier, sociologue, philosophe, observateur de nos métamorphoses contemporaines. Il y avait également Valérie Rabault, femme politique, anciennement vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui ne pouvait être avec nous ce matin, hélas. Un violoncelliste tout à fait extraordinaire, Florian Antier, pour des soupirs musicaux d'une douceur infinie. Et puis l'animation par Christian Apothélose et Sophie Deschamps. Presque 6 heures, Raphaël Liaugier, Olivier Abel, pour parler d'éthique. Et donc prendre le temps pour développer une pensée, en discuter, augmenter, se questionner, argumenter. Raphaël, Olivier, c'est assez rare finalement dans un monde où on va toujours très très vite de prendre le temps de cette façon.
Oui, c'est rare et je trouve que le faire ça à la nuit, en prenant le temps, on est ailleurs, on n'est pas dans le temps diurne, de l'éveil rapide, direct, il faut y aller. Quoi. Bon, la nuit, c'est, je dirais pas qu'on y va coucher. On est déjà dans un temps un peu onirique, en quelque sorte. Hein. On rentre dans un rythme qui est différent, la nuit. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est précieux, oui. qui est rare, vraiment rare.
La nuit, c'est un temps particulier, un temps peut-être aussi de transition, d'incertitude, de fragilité, enfin...
Ouais, moi, je crois que la nuit, c'est le moment où on relativise, et le moment où on est capable de créer, le moment où on est capable d'oublier, c'est banal, mais au moment où on est capable d'oublier les préoccupations mondaines, ce qui a l'air d'être important, de nous écraser.
Le quotidien, là.
C'est ça. D'un seul coup, lorsque la nuit arrive, ça peut, pas pour tout le monde, hein, mais ça peut se relâcher. On se laisse être, au lieu de justement chercher tout le temps à faire. Pour le coup, on se laisse être. Ouais. Ouais. Et ça, je trouve ça merveilleux, le rapport à la nuit, pour ça. Je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, le temps lui-même semble s'étirer. D'une certaine manière, il s'étire, comme si on avait le temps. Et d'une autre manière, il s'intensifie. Mais il s'intensifie sur ce qui est essentiel. Donc c'est vraiment le moment philosophique.
Prendre le temps justement de parler alors d'éthique largement, est-ce une manière d'assumer que l'éthique n'est pas une affaire de réponse toute faite, facile, rapidement, mais qu'il y a besoin d'un cheminement de pensée?
Mais je dirais aussi que l'éthique n'est pas qu'une affaire d'argumentation rationnelle. Il y a toute une philosophie morale un peu sérieuse qui cherche la petite bête, si je veux dire, pour aller derrière chaque mot, etc. Ouais. Et je pense que là, on a une dimension aussi par le fait qu'on le fait la nuit. C'est-à-dire, l'éthique, c'est aussi laisser être, mais c'est aussi désirer. Il y a du désir, il y a de l'onirique, hein, il y a du rêve, il y a de la rêverie. Moi, je compare volontiers les nuits de l'éthique à des voyages en train de nuit. Hein. On est couché, puis on voit à travers les interstices des choses qui apparaissent. On ne cherche pas à tout prix à tout retenir, à tout comprendre. On sait que c'est des images du monde fragmentaires qu'on a. Mais ça nous aide à nous situer, en quelque sorte. Et je pense que l'éthique, c'est vraiment ça aujourd'hui. C'est vraiment s'orienter. S'orienter dans la pensée, mais s'orienter dans la vie, en quelque sorte. Comment est-ce qu'on va trouver notre orient, retrouver des points cardinaux. Les choses importantes, à l'instant, Raphaël parlait de ça. Il y a des choses qui sont relativisées. Et puis d'autres choses, peut-être, qui du coup peuvent émerger comme étant vraiment importantes.
Des repères pour
qu'est-ce
nous
qui est important? C'est ça, pour moi, la question de l'éthique. Qu'est-ce qu'on considère comme important?
Raphaël,
moi, je trouve que Olivier a dit quelque chose qui me touche, c'est que l'éthique, c'est pas seulement des explications, et on a trop tendance à résumer l'éthique à de l'argumentation avec les lois bioéthiques, avec toute une série de choses, des controverses éthiques, etc.
On rentre dans le dogme très facilement.
Ouais, exactement. Finalement. Et moi, j'ai l'habitude de dire que l'esthétique précède l'éthique. Or, aujourd'hui, on a le sentiment que c'est l'argument. On met d'abord l'argumentation, et puis après, on dit, bon, maintenant, vous allez suivre. Sauf que l'esthétique, c'est aussi ce que j'appelle le domaine de l'adhérence, qui précède l'adhésion. L'adhésion, c'est j'explique pourquoi je fais ça, ceci, etc. etc. Mais l'adhérence, c'est à un moment donné, c'est pas, j'y pense pas, mais je sens que c'est ce qui me convient. J'ai envie d'être héroïque. Je désire faire quelque chose, une action qui me dépasse. Je le fais parce que c'est beau. D'ailleurs, dans l'Antiquité grecque, on disait qu'un geste éthique, c'est un beau geste. C'est un geste héroïque, c'est un beau, c'est beau, donc c'est plus grand que moi. Et je trouve qu'on a perdu la beauté même du geste. Comme s'il fallait qu'on soit convaincu de faire un certain nombre de choses. Mais une fois qu'on est convaincu de faire un certain nombre de choses, c'est comme si ça devenait fastidieux, comme un enfant qui doit faire un truc, il a envie de contourner le... Il faut redonner cette espèce de beauté au geste éthique.
Ça rejoint l'onirisme.
Je voudrais juste ajouter une chose, parce qu'on est au pays où Camus est mort. Bon, et ça me touche beaucoup, ça, parce que on a tendance à penser la morale, c'est d'abord le non, l'interdit.
On se positionne.
Et je pense que ce qui est important et qu'on trouve très fortement chez Camus, c'est qu'il n'y a de non que parce que par derrière, il y a l'énergie d'un oui, d'une affirmation plus originaire, plus profonde, plus forte. Il faut retrouver d'abord cette affirmation.
C'est la pensée de midi.
C'est ça. Et l'éthique, c'est ça. C'est ce oui. À quoi est-ce que nous disons oui ? Alors après, parce qu'on sait qu'on dit oui, on trouvera des limites, il y aura des non. Mais le oui est premier.
Alors entre le dire et le faire, comme une forme d'éthique de l'attention, pourquoi cet entre-deux est finalement à la fois si fertile et puis si inconfortable en même temps ?
Il me semble important à la fois de montrer la congruence du dire et du faire, leur caractère inséparable. Il n'y a pas d'agir sans parole. L'agir humain, les affaires humaines ont besoin de paroles. De toute manière, les paroles sont déjà des performatifs, comme on a dit, c'est-à-dire des actes. Il y a beaucoup de paroles qui font quelque chose, qui changent quelque chose. Bon. Mais en même temps, il m'a paru important aussi de pointer leur écart. Ne pas donner à la parole cette espèce de puissance magique de changer le monde, parce que finalement, à ce moment-là, on est vraiment dans ce monde où tout est fabriqué, en quelque sorte. On croit que la parole est capable de refabriquer le monde à volonté, en quelque sorte, et c'est ce concept de post-vérité qu'on a trouvé avec Trump, etc., dont on a beaucoup discuté hier soir, et je pense que c'est dangereux. Et donc, c'est important qu'il y ait un écart entre le dire et le faire.
Que jamais l'un ne domine sur l'autre.
Que l'un ne domine pas l'autre. Voilà, c'est ça. Qu'il y ait des écarts, qu'il y ait de la place aussi pour essayer. La parole, elle essaye des choses. Il y a des paroles qui sont tellement importantes qu'elles vont impacter la réalité. Et puis d'autres paroles qui sont des paroles légères, qui glissent et qui s'évaporent. Et tant mieux.
On parle de la distance. Mais il y a aussi un point commun entre le dire et le faire. En tout cas, entre le dire humain et le faire humain. C'est que dans les deux cas, le dire et le faire humain font partie de la mise en scène de soi. C'est-à-dire que les humains ne font pas quelque chose juste pour survivre, comme j'essaie de le dire, ou juste pour plus de confort. Ils font quelque chose pour démontrer ce qu'ils sont, pour dire ce qu'ils sont, pour évoquer ce qu'ils sont. Et ça commence par le dire, en fait. En effet. Je commence par le dire. La parole humaine, elle n'est pas seulement là pour transférer une information, elle n'est pas seulement là même pour être performative. Elle n'est pas seulement là parce qu'on désire survivre absolument. Elle n'est pas seulement là parce qu'on désire plus de confort absolument. Donc on a besoin de dire un certain nombre de choses. Non, elle est là pour dire « je suis là » justement.
Raphaël Liaugier, vous avez évoqué aussi, et ça a été un long moment d'échange, de discussion, une autre tension, celle qui se joue entre émotion et raison. Et vous préfériez d'ailleurs, si j'ai bien saisi vos propos, dogmatique et critique.
Ouais. Il n'y a pas plus beau que l'émotion. Et d'ailleurs, énormément de formules mathématiques résonantes, elles naissent de l'émotion. Einstein, il a inventé la relativité restreinte puis générale à partir d'une sorte d'émotion d'une nuit, probablement, ou des choses comme ça. Par contre, le problème, c'est pas l'émotion qui s'opposerait à la raison. Ça, c'est faux. C'est n'importe quoi. Ce qui fonctionne, c'est, je dis vraiment, esprit critique, esprit dogmatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à cause de l'émotion, justement...
On peut entrer dans le dogme.
Exactement, à cause d'une émotion négative. On a beaucoup parlé de Trump hier. À cause d'une émotion négative, ce pauvre Trump, quelque part, en dehors du mal qu'il fait à l'extérieur, pour lui-même, il fait beaucoup de mal. Parce que sa colère le bloque et il dit « j'ai raison ». Mais il peut le dire au nom de la raison, alors que c'est produit par son émotion. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il est dogmatique en raison de sa colère. Il met son émotion au service de son dogmatisme ou sa raison, à la limite.
Et le dogme empêche la critique.
La critique. Et la critique, c'est quoi? La critique, c'est pas la critique négative, systématique. La critique, c'est la réalisation que ce que je vois, que ce que je crois voir, n'est pas la totalité du réel. Donc je peux aller au-delà. C'est ce que j'appelle la transcendance brute. Aller au-delà de ce qui semble être. C'est pour ça qu'un scientifique peut être critique et il doit être critique. Mais dans les religions, on a cette catégorie de personnes qu'on appelle les mystiques, qui sont des sortes de scientifiques dans un sens critique. C'est-à-dire ils critiquent tout le temps. On ne peut pas leur donner une image de Dieu qui soit fixée, déterminée, etc. Et ce dépassement, c'est le propre de l'humain, c'est l'énergie basique de l'humain qu'il ne faut jamais perdre par dogmatisme. Parce que le dogmatisme vient de la peur. Voilà. Pourquoi aujourd'hui on est raciste, on est plus raciste, on a peur de l'immigration, etc. Ben parce qu'on a peur. Et donc on devient dogmatique, donc on exclut les autres, etc. Il faut garder l'esprit critique.
Olivier ?
En même temps, les dogmes, c'est très intéressant. On a forcément des dogmes, comme on a tous une part qui vient de notre enfance, comme une part de rêve. On peut discuter des choses, mais à partir de choses qui sont indiscutables, dont on n'est même pas conscient.
Est-ce qu'on peut mettre ça à côté du mot certitude ?
Justement, il y a un philosophe qui s'appelle Wittgenstein qui a énormément travaillé cette question de la certitude. En fait, pour qu'une porte puisse bouger, il faut qu'il y ait des gonds qui ne bougent pas. C'est ça l'idée, en sorte de dogme. Mais bon, on peut le penser comme ça aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que on a tous des dogmes, mais il faut commencer par faire un travail critique sur ses propres dogmes, essayer de comprendre quels sont, d'aller le plus loin possible en direction de ces gonds.
Peut-être en avoir conscience, donc, déjà.
Conscience, oui, conscience, ou au moins savoir qu'on a une certaine étroitesse. On a tous une certaine étroitesse. L'esprit large, c'est l'esprit qui sait ses limites, qui sait son étroitesse. Voilà, c'est une petite parenthèse sur une défense des dogmes, mais c'est important. On a besoin de dogmatique. Nous, on a en faculté de théologie, on a des professeurs de dogmatique qui font ce travail justement de comprendre sur quel dogme on a travaillé. Justement, on retravaille les dogmes. Ils sont vivants. Ils sont pas dogmatiques justement. Ils sont sans cesse travaillés.
À cause de la critique. Justement.
Voilà.
Raphaël.
Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que j'aurais pu rajouter. Une fois, j'avais été invité par Noël Mamère aux universités d'été des Verts. Oui. Et c'était, je devais parler de la discrimination. Et j'ai commencé en disant, il n'y a rien de plus beau que la discrimination. Parce que la discrimination, c'est fondé sur ce qu'on pourrait appeler des dogmes optiques. Et on a besoin de dogmes optiques, c'est-à-dire qu'on a besoin de préjugés. La discrimination, c'est de l'optique, c'est ce qui me permet de percevoir les reliefs. Ce qui me permet de percevoir les reliefs, sur le fond, c'est faux. Par contre, c'est relativement vrai parce que ça me permet de m'orienter. Ouais. Et donc, les dogmes sont des préjugés qui sont les grilles de lecture du réel. Il y a un autre mot qui est intéressant à ce sujet, c'est le mot cliché. Un cliché, c'est faux parce que ça donne une image arrêtée du réel. Mais néanmoins, c'est une image arrêtée, c'est un cliché. Et donc, c'est nécessaire. La seule question, c'est de ne pas considérer que le cliché, c'est la totalité du réel.
C'est enfermer la vérité dans une image.
Exactement. Être conscient de ces dogmes, ça suffit pour récupérer l'esprit critique et faire fluctuer les dogmes les uns avec les autres.
Je vous propose une courte respiration musicale avant de reprendre cet intense échange entre Olivier Abel et Raphaël Liogier, enregistré, je vous le rappelle, à Lourmarin au Festival des Arts de la Parole, le matin suivant la Nuit de l'Éthique. C'est une chanson de Sarah Cooper que j'avais eu l'occasion de recevoir par deux fois ici dans Solae pour deux comédies musicales, dont la dernière, Les Dix Commandements, l'envie d'aimer, où elle interprétait le personnage de Jochebed, la mère de Moïse. Sarah Cooper vient de sortir un nouvel air, son premier EP, à écouter comme une vraie respiration, disponible sur toutes les plateformes depuis le 14 novembre. Avec sa voix lumineuse et son écriture intime entre pop, folk et accent soul, Sarah Cooper déploie un univers d'apaisement et de lumière porté par la complicité musicale de Jean-Michel Mailly. Écoutons donc ce titre éponyme qui ouvre l'EP, un nouvel air donc. Sarah Cooper y met des mots sur la reconstruction, sur cette foi simple qui permet de recommencer. Entre douceur et espérance, elle chante la possibilité d'un autre souffle, celui qui relève, qui réconcilie, qui remet debout.
Ton premier cri fait chavirer mon cœur. Oh, ton premier sourire vient me couvrir de douceur. Sur terre, sans pareil. Tes mains sur mon visage, je m'entoure d'un nouvel air.
Alors on est dans l'émission protestante de France Culture. En tant qu'intellectuel engagé, tous les deux, pensez-vous que la tradition protestante peut encore proposer justement une voix éthique audible dans le débat contemporain? De quelle façon? Est-ce qu'elle a quelque chose de singulier, de spécifique?
Moi, n'étant pas protestant, je me sens d'autant plus légitime pour dire mon petit mot.
Oui, allez-y.
Les protestants, justement, sont, me semble-t-il, les premiers dans l'espace européen à avoir généralisé ce que j'appelle justement l'expérience collective de la transcendance brute. La transcendance brute, c'est pas une expression sociale particulière. La transcendance brute, c'est le fait que dans chaque être humain, il y a ce désir de dépassement, de se transcender, comme on dit dans le sens commun, avant même que ce soit structuré par des religions, des représentations, etc. Ça, c'est l'expérience du mystique dans toutes les traditions. Et en fait, ce que font les protestants, c'est qu'ils rendent collectif, pour ainsi dire, ils généralisent cette expérience mystique à l'échelle de tout un peuple, le peuple des protestants. C'est comme l'anticipation de cette grande expérience mystique de la modernité qu'est la démocratie moderne. Sauf que la démocratie moderne, à mon sens, elle aura échoué pour en faire une vraie expérience mystique. Elle va se résorber, puis se réduire à des questions de procédure auxquelles on croit de moins en moins. On va parler de la démocratie comme une sorte de hocher. Et c'est pour ça, je crois, qu'il y a un problème aujourd'hui politique. Donc peut-être que les protestants peuvent être la base collective à partir de laquelle la démocratie pourrait se régénérer. C'est-à-dire retrouver son vrai sens.
Olivier ?
Moi, je suis protestant. Moi, donc, j'ai enseigné l'éthique pendant 40 ans à l'Institut protestant de théologie à Paris, puis à Montpellier. Donc, ça a été mon métier, ça a été ma vie, en fait. Ouais. Hein. Et c'est vrai que, voilà, au bout d'une carrière de plus de 40 ans, 46 ans d'enseignement de la philosophie, mais bien ancrée dans cette tradition protestante un peu particulière, hein, parce que moi, j'ai été proche de Ricoeur, mais aussi, j'ai bien connu Ellul, j'ai bien connu beaucoup de nos intellectuels, de Jean Carbonnier, le juriste, etc. Bon. Et justement, je pense à Carbonnier, le juriste Jean Carbonnier, qui d'ailleurs lui-même disait, parce qu'il lui-même est un converti, alors qu'on croit que c'est un vieux huguenot de vieille souche, et non, c'est un converti. Et un jour, au musée du désert, il disait, mais est-ce qu'on a un droit aux racines? Non, il n'y a pas de racines. De ces pierres, Dieu pourrait tirer à une descendance à Abraham. Donc, vous voyez, il n'y a pas de descendance, il faut arrêter cette conception-là. Oui, mais alors, j'ai envie de dire quand même, à quoi les gens comme Carbonnier ou Ricoeur, etc., m'ont rendu sensible, c'est au fait que pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. On part de quelque part. On part d'une tradition, d'une mémoire qui est un peu plus longue que nous-mêmes. Ça, c'est une chance de rentrer dans le débat public en s'appuyant sur une mémoire un peu plus longue que nous-mêmes, qu'on interprète à notre tour, génération après génération. Il me semble que le propre de ce que les protestants en France ont à dire tient à leur état de minorité. Et nous sommes sensibles à la situation des minorités. Et je pense que c'est cette sensibilité à toutes les minorités qui nourrit notre rapport, ouais, que ce soit à la législation, ouais, que ce soit à la politique étrangère, que ce soit à la forme qui est en train de prendre la laïcité en France.
Alors ça ne serait pas spécifique aux protestants? Parce qu'effectivement, non, le protestant américain, ouais, lui, il n'a pas du tout la même attitude pour
je
le
coup. Je pense que c'est différent.
Ouais. Donc ce n'est pas intrinsèque, c'est vraiment une...
Oui, je pense que c'est lié à une histoire particulière quand même, qui est cette histoire-là.
On a parlé aussi de l'utopie dans la soirée, alors pas énormément, mais ça a été évoqué. Moi, c'est un thème que je trouvais aussi intéressant à évoquer avec vous là ce matin, parce qu'entre le dire et le faire, où loge finalement cette notion d'utopie? Est-ce que c'est un simple horizon verbable ou une force qui peut nous pousser à l'agir? Des penseurs protestants ont réfléchi à ça. Je vous proposerai d'ailleurs après quelques citations et je vous demanderai de réagir à ce qu'ils ont dit. Olivier.
Mais moi, je pense qu'en effet, la parole, à un moment où la parole décolle du réel, elle est en écart par rapport à la réalité et justement, elle ouvre un horizon qui va être un horizon d'attente pour un agir, qui va essayer de rejoindre ce qui avait été promis par la parole. Mais ce n'est pas sûr. Hein. Bon, c'est incertain, c'est un peu imprévisible. En tout cas, ouais, on peut pas le c'est pas une parole qui...
Ça se calcule pas.
Il ne s'agit pas de plaquer la, ouais, parole sur le réel. C'est une utopie qui voudrait se plaquer et découper du réel tout ce qui échappe, tout ce qui est en dehors du discours, elle devient totalitaire. Hein. Donc ce n'est pas cette forme-là de l'utopie qui m'intéresse, ni la forme de l'utopie qui est une pure évasion dans laquelle on ne cesse de se raconter des histoires. Et donc, je pense qu'on se raconte beaucoup d'histoires. Vous voyez, bon, et qu'il y a un moment, il faut aussi voir que ces histoires nourrissent notre rapport au réel.
Remettre les pieds sur terre, en gros, voilà, c'est ça. Pour le dire simplement.
Mais ce besoin d'un écart par rapport à la réalité, que la parole ouvre cet écart utopique. Oh, excusez-moi, je reviens à Ricoeur qui disait « Agir, c'est faire en sorte que le monde ne soit pas fini. Enfin, le monde n'est pas fini. Il y a quelque chose qui est inachevé.
C'est l'espérance aussi, d'une certaine façon, qui est là.
Complètement. Ouais.
Sur l'utopie, je parlais hier d'universel concret, en disant que concret, ça veut dire croître ensemble. Et donc, moi, je plaide pour ce que j'appelle les utopies concrètes. Autrement dit, une utopie, ça ne veut pas dire que c'est conventionnel. Ça n'entre pas dans le mode conventionnel actuel. Ça nécessite une forme d'imagination, hein, comme disait Olivier, pour sortir des conventions. Mais en même temps, ça se construit avec l'autre. L'abstraction, c'est le fait de le construire tout seul, finalement. Ouais, de dire, je suis seul avec moi-même. Non, tu ne peux pas être seul avec toi-même. Ouais. Toi-même, tu as besoin d'être ton soi. Mais ensuite, tu sors de ton soi et tu co-construis. Et donc ça devient une utopie concrète. C'est pour ça que je faisais référence aux années 60, aux années 70, qui sont souvent raillées. Mais il y a des choses magnifiques qui se sont faites dans ces années-là. Parce que les gens rêvaient concrètement. Ensemble, décider de partir dans l'Ariège, par exemple.
On met au défi une idée qui est là en nous, mais on l'attend.
Exactement. J'aime bien rappeler chaque fois que c'est quand même eux qui ont inventé le développement durable, l'économie circulaire, et toutes ces choses aujourd'hui qu'on essaye de nous inculquer, qu'on n'arrive pas à agir. Là, c'est vraiment entre le dire et le faire. On n'arrive pas à les faire. Pourquoi ? Parce qu'il manque cette dimension concrète, cette dimension esthétique, cette dimension du désir de le faire ensemble.
Olivier. Il y avait des véritables utopies marines à l'époque de la flibuste. Hein, ouais. J'avais fait un film pour France 2, pour Présence Protestante, là-dessus, sur cette époque incroyable où il y a justement le développement des Quakers et de toutes ces petites sectes liées à la Révolution anglaise, la première, la Révolution puritaine, qui ont été chassées par Cromwell, etc., et qui sont allées dans des îles en cassant justement l'esclavage. Donc c'était des peuples de rescapés mélangés avec justement un rapport à l'évangile qui était un rapport libérateur. Des totales utopies qui ont duré quelques décennies, qui ont été écrasées par les empires coloniaux. Voilà. Il y a des tiges utopiques comme ça qui sont elles-mêmes passionnantes.
C'est un rêve commun, une aventure, érotique. Il y a une chose de...
Ça me permet d'aller sur la première citation, j'en ai deux. Gabriel Vahagnan, qui est un grand penseur justement de l'utopie chrétienne, et qui dit « Dans l'Évangile, il ne s'agit pas de changer de monde, mais de changer le monde. »
Ça veut dire changer notre état d'esprit, quelque part.
Au départ,
changer
peut-être.
Le monde, c'est notre façon de voir le monde. Si vous ne pouvez pas changer le monde extérieur, ça serait un peu trop prétentieux. C'est ça.
Mais quelque part, c'est ça, c'est pas s'enfuir dans une situation, mais la confronter et oser...
Dans le film Interstellar, il y a cette parole extraordinaire du chef de la NASA qui s'est caché parce que la NASA est devenue... Bon. Et donc, le héros du film déboule en disant « Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le monde ?» Et le type lui dit « Non, il ne s'agit pas de sauver le monde, il s'agit de le quitter. » C'est une phrase extraordinaire, c'est une phrase théologique extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans cet imaginaire-là. En fait, le monde, il est déjà foutu. Le monde, on le laisse bousiller. De toute façon, il est foutu. Il faut préparer l'étape suivante. Bon. Et je pense que de dire, comme Vahagnan, la véritable utopie, c'est pas d'aller ailleurs. Ouais. La véritable utopie, c'est de redescendre ici sur Terre.
Se bouger.
Et donc, c'est de se retrouver ce monde-ci et de faire en sorte que ce monde-ci soit de nouveau habitable. Voilà, ce serait ça l'utopie, je pense.
Et puis j'en ai une deuxième, alors qui va vous plaire, Olivier, elle est pour vous, c'est cadeau, c'est Paul Ricoeur, forcément. De nulle part jaillit la plus formidable contestation de ce qui est. L'utopie en contrepoint et la fonction de la subversion sociale.
Oui, oui, c'est ça. En fait, Ricoeur montre que l'idéologie et l'utopie ont des fonctions perverses. Ouais. L'idéologie comme dissimulation et l'utopie comme évasion ou comme logique du tout ou rien. Ouais. Bon. Mais elles ont aussi des fonctions positives. Et ce qui l'intéresse, en fait, c'est la fonction positive de par l'idéologie, justement, de réintégrer dans un récit commun. Hein. On a beaucoup parlé de récit commun hier. On a même parlé d'épopée. Comment retrouver un sens épique? Qu'est-ce qui donnerait du sens à notre agir commun? Bon. Et puis l'utopie, justement, comme subversion. Voilà, le monde n'est pas fini. On peut le voir autrement. On peut le voir d'un tout autre point de vue. On a besoin de tous les points de vue. Et même un tout petit point de vue apparemment complètement minable, il peut nous apprendre sur le monde des choses complètement nouvelles et bouleverser notre regard sur le monde.
C'est le Bobby de Que ma joie demeure qui ouvrait le festival, Jean Giono, dit par Robin Renucci. C'était exactement ça, ce poète saltimbanque qui arrive là où il n'y a plus du tout d'espérance. Enfin voilà, c'est désolation d'une campagne perdue. Et lui, par sa parole, ses gestes et même à un moment son absence, puisqu'il s'en va, va transformer tout ça. C'est magnifique.
Ouais, c'est magnifique.
Raphaël, vous voulez réagir
Mon dernier mot, ça serait d'essayer de réhabiliter un mot qui a très mauvaise presse aujourd'hui, mais qui, à mon sens, est positif. Donc, je l'explique dans mes travaux, mais c'est le dire là rapidement, ça me plaît. C'est le mot hubris. Quand on parle d'hubris aujourd'hui, on veut dire c'est l'horreur, c'est ce qui fait qu'on a envie de devenir plus fort que Dieu.
La
démesure. Moi, je suis pour l'hubris. Je pense que notre monde manque d'hubris. Mais quand on parle d'hubris, en fait, c'est l'hubris négative. C'est la démesure au sens d'accumulation, de remplissage, etc.
Possession.
Exactement. Alors qu'on a besoin de démesure, c'est-à-dire on a besoin d'arrêter de mesurer, d'être au-delà de toute mesure. Et l'hubris positive, ça veut dire... dépassement, je rappelle que c'est ce qui a fait hybridation, c'est-à-dire la capacité de dépasser ses propres préjugés, même ethniques, pour aller vers l'autre, la différence, les différences culturelles. Ça veut dire aussi hyper, au sens plus que, c'est plus que ce que ça a l'air d'être, donc le monde n'est pas fini, d'accord. Et puis ça, c'est aussi ce qui a fait ébriété, qui est le contraire d'un rapport dépendant à l'alcool, qui est au contraire se rendre indépendant, autonome par rapport aux conventions, mais sans être dépendant de l'alcool, juste suffisamment pour être dans une forme de vérité qui nous dépasse. Et donc, pour moi, l'hubris, pour ainsi dire, c'est l'instrument de la transcendance brute.
Alors, vous avez précédé ma dernière question, puisque j'allais demander si vous aviez un mot, une parole, une phrase à laisser, c'est la question rituelle de ces interviews, à laisser dans la tasse de nos auditeurs. Donc, hubris pour Raphaël.
Vive l'hubris.
Et vous, Olivier Abel.
Depuis le début de la réforme, on est vers l'émancipation, l'indépendance. On a cessé de faire des déclarations d'indépendance. Je reviens sur la dernière phrase que je disais hier de Ricoeur, le sujet de la foi, ce n'est pas « je », c'est « nous ». Par rapport à un protestantisme qui est quand même très individualiste, et je comprends très bien, ça répondait beaucoup à des servitudes, mais on a besoin de nous. Et moi, je dirais aujourd'hui, il nous faudrait des déclarations d'interdépendance. Remesurer nos interdépendances dans toutes les dimensions. Nous sommes interdépendants. Voilà.
C'est très beau, ça.
Merci beaucoup, Raphaël Liogé. Merci, Olivier Abel. Bonne suite à vous.
Merci.
De même. Au revoir. Merci.
C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé à Paris par Thomas Jost et avec Éric Perruchot-Triboulet à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. À la télévision ce matin sur France 2, depuis 8h30 et jusqu'à 11h, c'est la matinée interreligieuse proposée par toutes les émissions religieuses des Chemins de la Foi avec une thématique en forme de question, le corps, une sacrée question pour les religions. Mais sur France Culture, vos programmes du dimanche matin continuent avec naturellement Talmudique présenté par Marc-Alain Wachnin juste après vos informations de 9h. Je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun.